Rudyard Kipling, un maître au dossier. Ici, il tomba sur un petit poulain de chameau qui dormait dans le sérail où habitent les maquignons et les pires voyous en provenance de l'Asie centrale. Et comme il était fortivre en vérité et que la nuit était noire, il ne put se relever que je ne l'y aidasse. Ce fut le début de notre connaissance à Mackintosh, Jalaluddin et à moi. Lorsqu'un déclassé et un déclassé ivre chantent la chanson du berceau, il doit valoir la peine qu'on le cultive. Il se tira du dos du chameau et dit sur un ton plutôt rempâté: Je suis un brin éméché, mais un plongeon dans le Loggerhead me remettra d'aplomb. Et dites-moi, avez-vous parlé à Simons au sujet des genoux de la jument? Or, Loggerheads se trouvait à 6 miles, long miles de nous, du côté de la Mésopotamie, où l'on n'a pas le droit de pêcher à la ligne et où le braconnage est impossible. Et l'écurie de Charlie Simons, à un demi-mile plus loin, en passant par les enclos. C'était étrange d'entendre tous les vieux noms dans une nuit de mai, parmi les chevaux et les chameaux du caravansérail du sultan. Puis l'homme parut avoir ressouvenance de lui-même, et, ce faisant, retrouvait son aplomb. Il s'accoda au chameau en indiquant un coin du sérail où brûlait une lampe. C'est là que j'habite, dit-il, et je vous serais infiniment obligé si vous étiez assez bon pour aider mes pieds rebelles à s'y diriger, car je suis plus que jamais ivre. On ne peut plus, phénoménalement gris, mais non pas pour ce qui est de ma tête. My brain cries out against. Comment cela, continue-t-il, mais ma tête commande, roule sur le fumier, aurais-je dû dire, et maîtrise le haut de cœur. Je lui fis traverser les troupes de chevaux à la tâche, et il s'affaissa sur le bord de la véranda, vis-à-vis de la ligne limite des quartiers indigènes. Merci, merci mille fois, ô lune et petites, petites étoiles. Pensez qu'un homme puisse si impudemment, oh, infâme liqueur aussi, avide en exil, n'en eût pas de plus meilleur, pire, de meilleur, mais elle était gelée, hélas, j'avais pas de glace, allez, bonne nuit. Je vous présenterai à ma femme si j'étais à jeun, et elle, civilisée. Une femme indigène sortit de l'ombre de la chambre et se répandit en injures à l'adresse de l'homme. Aussi m'en allais-je. Oh, c'était le déclassé le plus intéressant dont j'eusse eu depuis longtemps le plaisir de faire la connaissance, et il devint plus tard de mes amis. Grand, bien bâti, blond, mais la santé affreusement ébranlée par la boisson, il paraissait plus près de 50 ans que de 35, qui, disait-il, était son âge réel. Lorsqu'un homme dans l'Inde commence à perdre pied, si ses amis ne l'envoient pas au pays aussitôt que possible, à un respectable point de vue, il tombe très bas. Et une fois qu'il a changé de profession de foi, comme fit Mackintosh, le voilà à passer à chat. Dans la plupart des grandes villes, les indigènes vous parleront de deux ou trois sahibs, généralement de basse caste, devenus hindous ou musulmans, et qui vivent plus ou moins comme tels. Mais ce n'est pas souvent qu'on arrive à mettre la main dessus. Comme Mackintosh lui-même avait coutume de le dire, si je change de religion pour le bien de mon ventre, cherche pas à devenir un martyr, un missionnaire, pas plus que je ne suis avide de notoriété. Au début de nos relations, Mackintosh m'avertit. Rappelez-vous ceci, je ne suis pas un objet à servir d'objectif à la charité. Je ne réclame ni votre argent, ni votre nourriture, ni votre vieille défroque. Je suis ce rare animal, un ivrogne qui se suffit à ses besoins. Si vous voulez, je fumerai votre tabac, car celui des bazars ne convient pas, je l'accorde à mon palais. Et je vous emprunterai tous les livres auxquels vous pouvez ne pas tenir spécialement. Oh, il est plus probable que je les vendrai pour des bouteilles de liqueur du pays extrêmement dégoûtantes. En retour, vous partagerez telle hospitalité que peut fournir ma maison. Voici un charpoix sur lequel on peut s'asseoir à deux. Il est possible qu'il se trouve de temps à autre à manger dans ce plat. À boire, malheureusement, vous trouverez sur les lieux à toute heure. Et c'est ainsi que je vous souhaite la bienvenue dans tout mon pauvre établissement. Je fus admis au foyer de Mackintosh, moi et mon bon tabac. Mais ce fut tout. Par malheur, on ne peut guère, pendant le jour, faire visite à un déclassé dans le sérail. Les amis en train d'acheter des chevaux ne le comprendraient pas. En conséquence, je fus obligé d'attendre la nuit pour voir Mackintosh. Il en rit et dit simplement « Oh, vous avez parfaitement raison. Quand je jouissais d'une situation dans la société, et je dirais plus élevée que la vôtre, j'eusse fait exactement de même. Bonté divine. Je fus jadis. » Et il parla comme si, ayant commandé un régiment, il fût tombé de son grade. « Je fus d'Oxford. » Cela expliquait l'allusion à l'écurie de Charley Simons. « Vous, ajouta Mackintosh lentement, vous n'avez pas eu cet avantage. Mais, selon toute apparence extérieure, vous ne semblez pas posséder d'une soif ardente pour les boissons fortes. En résumé, j'imagine que vous êtes le plus heureux des deux. Cependant, je n'en suis pas certain. Vous êtes, pardonnez-moi de vous le dire, surtout au moment où je fume votre excellent tabac. Vous êtes péniblement ignorant de maintes choses. » Nous étions assis ensemble sur le bord de sa couchette, car il ne possédait pas de chaise, et en train de regarder donner à boire aux chevaux pour la nuit, pendant que la femme indigène préparait le dîner. Il ne me plaisait guère de me voir en butte aux airs protecteurs d'un déclassé, mais j'étais son hôte pour le présent, bien qu'il ne possédât qu'un vêtement d'alpaga fort déchiré et une paire de culottes taillées dans la toile de mal à café. Il retira sa pipe de sa bouche et poursuivit judicieusement. « Tout bien considéré, je doute que vous soyez le plus heureux. Oh, je ne parle pas au point de vue de vos connaissances classiques extrêmement limitées ou de votre horrible accentuation, mais de votre grossière ignorance en ce qui concerne des matières plus immédiatement soumises à votre attention. Ceci, par exemple. » Il désigna une femme en train de nettoyer un samovar près du puits au centre du sérail. Elle faisait sauter l'eau du bec par secousses cadencées d'une façon régulière. Il y a manière et manière de nettoyer les samovars. Si vous saviez pourquoi elle accomplit sa besogne de cette façon spéciale, vous sauriez ce que le moine espagnol voulait dire lorsqu'il s'exprimait ainsi. I'm the Trinity Illustrate, drinking water of orange pulp. In free ship is the Harian frustrate, while he drains his at hot gulp. Et beaucoup d'autres choses qui maintenant sont cachées à vos regards. Allez, cependant, Mrs. Mackintosh a préparé le dîner. Mettons-nous à manger à la mode des gens du pays, dont en passant, vous ne savez rien. La femme indigène plongea la main dans le plat avec nous. C'était irrégulier, L'épouse devait toujours attendre que la mari eût mangé. Mackintosh, Gilwadin, s'en excusa en disant: « Oh, c'est un préjugé anglais dont j'ai pu triompher elle-même. Je n'ai jamais été en état de comprendre. Je me suis collé avec elle à Yulundur il y a 3 ans. Elle est toujours restée avec moi depuis ce temps. Je la crois honnête, sans qu'elle a du talent en matière de cuisine. » Il caressa la tête de la femme tout en parlant, et elle roucoula doucement. Elle n'était pas jolie à regarder. Mackintosh jamais ne me dit quelle situation il avait occupée avant sa chute. C'était à jeun un savant, un gentleman, et ivre il tenait quelque peu du premier, plus que du second. Il avait coutume de s'enivrer une fois par semaine environ, 2 jours durant. En ces occasions, la femme indigène veillait sur lui pendant qu'il délirait en toute langue, sauf la sienne. Un jour, à vrai dire, il se mit à réciter Atalante à Calydon, et alla jusqu'à la fin, en rythmant la cadence du vers avec un pied de lit. Mais il accomplissait la plupart de ses extravagances en grec ou en allemand. L'esprit de l'individu était un parfait dépotoir de choses inutiles. Une fois, comme il commençait à se dégriser, il me déclara que j'étais le seul être raisonnable de l'Inferno dans lequel il était descendu. Un Virgile chez les ombres, dit-il, et que, en retour de mon tabac, il me fournirait, avant de mourir, les matériaux d'un nouvel Inferno qui me ferait plus grand que Dante. Puis il tomba endormi sur une couverture de cheval et se réveilla tout à fait calme. Mon garçon, dit-il, quand vous avez atteint les derniers abîmes de la dégradation, les petits incidents que vexerait une existence plus haute sont pour vous sans conséquence. Hier soir, mon âme était au sein des dieux. Mais je ne fais aucun doute que mon corps bestial ne se débattit là par terre dans la tripaille. Oui, vous étiez abominablement ivre, si c'est là ce que vous voulez dire, répliquai-je. Oui, j'étais ivre, salement ivre. Moi qui suis le fils d'un homme que vous ne concernez pas, moi qui fus jadis membre d'un collège dont vous n'avez jamais vu seulement la cantine. J'étais dégoûtamment ivre, mais remarquez combien peu cela me touche. Ça ne me fait rien, moins que rien. Je ne ressens même pas le mal de tête qui devait être mon lot. Or, au sein d'une existence plus relevée, combien ma punition eût été affreuse, combien amer mon repentir. Croyez-moi, mon ami, à l'éducation négligée, le plus haut correspond au plus bas, en suppressant toujours le degré à l'extrême. Il se retourna sur la couverture, mit sa tête entre ses poings et continua. Sur l'homme que j'ai perdu et sur la conscience que j'ai tuée, je vous déclare que je suis incapable de sentir. Je suis comme les dieux, connaissant le bien et le mal, mais à l'abri de l'un et de l'autre. Est-ce enviable ou ne l'est-ce pas? Lorsqu'un homme a perdu l'avertissement du mal aux cheveux, il faut qu'il soit en mauvaise posture. Je répondis en regardant Mackintosh sur sa couverture, les cheveux sur les yeux et la lèvre d'un blanc bleuté, que je ne pensais pas que la dite insensibilité en valût le coup. Par pitié, ne dites pas cela. Je vous le répète, c'est bon, on peut plus enviable. Pensez à mes consolations. En avez-vous donc autant que cela, Mackintosh? Certainement. Vous essayez ce sarcasme qui est essentiellement l'âme d'un homme cultivé. Sont un peu jeunes. Premièrement, mes connaissances, ma science classique et littéraire, Effacé peut-être par des libations immodérées. Ce qui me rappelle que, avant la visite de mon âme chez les dieux hier soir, j'ai vendu les œufs choisis d'Horace que vous m'aviez prêtés, avec tant de bienveillance. C'est Ditaboul, le marchand d'habits, qui les a. Et moi, apporté 10 annas, et on pourrait les racheter pour une roupie. Mais tout de même infiniment supérieur au vôtre. Secondement, l'affection fidèle de Mrs. McIntosh, la meilleure des épouses. Et troisièmement, le monument plus durable que les reins que j'ai élevé dans les 7 années de ma dégradation. Il s'arrêta ici et se traîna à travers la chambre en quête d'une gorgée d'eau, où il était fort peu solide et avait mal au cœur. Il fit allusion plusieurs fois à son trésor, quelques grands biens qu'il possédait, mais je pris cela pour le délire de la boisson. Il était aussi pauvre, aussi orgueilleux que possible. Ses façons n'avaient rien de plaisant, mais il en savait assez sur les indigènes, parmi lesquels 7 années de sa vie s'étaient écoulées pour que sa connaissance en valût la peine. Il avait l'habitude de se moquer de Strickland comme d'un homme ignorant. Ignorant l'Est et l'Ouest, disait-il. Son orgueil consistait tout d'abord à être quelqu'un d'Oxford, pourvu de moyens rares et brillants, ce qui peut-être ou n'être pas vrai, n'en savait assez pour contrôler ses assertions, et en second lieu, à tenir le doigt sur le pouls de la vie indigène, ce qui était un fait. En tant que quelqu'un d'Oxford, il me donna l'impression d'un pédant. Il était toujours à vous jeter son érudition au nez. En tant que fakir mahométan, en tant que Mackintosh, Jellaluddin, il avait tout ce qu'il fallait pour que j'en voulais tirer. Il fuma plusieurs livres de mon tabac et m'apprit plusieurs onces de choses qui en valaient la peine, mais il ne voulut jamais accepter de cadeau, pas même lorsqu'arriva la froide saison qui s'en prit à la pauvre et mince poitrine sous le pauvre et mince habit d'alpaga. Il se mit très en colère, déclarant que je l'avais insulté et qu'il n'allait pas aller à l'hôpital. Il avait vécu comme une bête et il mourait rationnellement comme un homme. En fait, il mourut de pneumonie et la nuit de sa mort m'envoya un chiffon de papier pour me demander de venir l'aider à mourir. La femme indigène pleurait à côté de lui et à côté du lit. Mackintosh, drapé dans une étoffe de coton, était trop faible pour se venger d'un vêtement de fourrure qu'on jetait sur lui. En ce qui concernait son esprit, l'homme avait conservé toute sa lucidité et ses yeux flambaient. Lorsqu'il eut injurié le médecin qui m'accompagnait, si honteusement que le vieux compère indigné s'en alla, il jura après moi quelques minutes, puis se calma. Il dit alors à sa femme d'aller chercher le livre dans un trou du mur. Elle apporta une grosse liasse enveloppée dans la queue d'un jupon, de vieilles feuilles de papier à lettres de toute provenance, numérotées et couvertes d'une fine écriture serrée. Mackintosh plongea la main dans la masse, qu'il remua amoureusement. Ceci, dit-il, est mon œuvre, le livre de Mackintosh Jellaluddin, montrant ce qu'il vit et comment il vécut, et ce qui arriva aussi bien à lui qu'à d'autres, qui est en doute un récit de la vie des péchés et de la mort de Maturin, ce que le livre de Mirza Mourad Ali Beg est au regard des autres livres sur la vie indigène. Mon livre le sera au regard de celui de Mirza Mourad Ali Beg. C'était, comme on en conviendra, tout homme qui connaît le livre de Mirza Mourad Ali Beg, une affirmation audacieuse. Les papiers ne paraissaient pas empreints d'une valeur spéciale. Mais Mackintosh me les tendit comme si se fût agi d'une monnaie courante. Puis il dit avec lenteur: En dépit des nombreuses lacunes de votre éducation, vous avez été bon pour moi. Je parlerai de votre tabac quand je joindrai les dieux. Je vous dois beaucoup de remerciements pour ma bonté, mais je les dette en abomination. En conséquence, je vous lègue à cette heure le monument le plus durable que le cuivre, mon livre unique, grossier et imparfait en certaines de ses parties, mais ô combien rare dans d'autres. Je me demande si vous le comprendrez. C'est un présent plus honorable que... Bah, ma cervelle va-t-elle vagabonder? Vous allez horriblement le mutiler. Vous en ferez sauter les pierres précieuses que vous appelez citations latines, espèce de philistin, et vous massacrerez le style pour tailler dans votre jargon saccadé. Mais vous ne pouvez pas le détruire en entier. Je vous le lègue. Est-elle... Oh, écoute mon cerveau. Mrs. Mackintosh, soyez témoin que je donne au Savary tous les papiers. Il ne vous serait d'aucune utilité. Cœur de mon cœur, je vous impose. Et ici, il se tourna de mon côté. Ne pas laisser mon livre mourir sous sa présente forme. Il est vôtre, sans réserve. L'histoire de Mackintosh et Alauddin, qui n'est pas l'histoire de Mackintosh et Alauddin, mais celle d'un plus grand homme que lui et d'une femme autrement grande encore. Écoutez maintenant, je ne suis ni fou ni ivre. Ce livre vous rendra fameux.
Je dis merci, bien. Pendant que la femme indigène me mettait la liasse dans les mains.
« Mon seul enfant !» dit Mackintosh avec un sourire.
Il déclinait vite, mais il continua de causer tant qu'un souffle lui resta. J'attendis la fin, sachant que dans 6 cas sur 10, un homme qui meurt demande sa mère. Il se tourna sur le côté et dit
« Racontez comment il vint à votre possession !» Personne ne vous croira, mais mon nom au moins vivra. Vous le traiterez brutalement, je le sais. Il en est une partie qui doit faire son chemin. Le public est composé de fous et de fous prudes. Je fus jadis leur serviteur. Mais opérez doucement votre mutilation, tout doucement. C'est un grand travail et je l'ai payé 7 années de damnation.
Sa voix s'arrêta l'espace de 10 ou 12 inspirations, puis il se mit à marmotter une prière d'un genre quelconque en grec. La femme indigène pleura fort amèrement. Enfin, il se souleva dans son lit et dit de sa voix haute et lente
« Innocent !»
Puis il retomba en arrière, et la stupeur s'empara de lui jusqu'à ce qu'il mourût. La femme indigène courut dans le sérail, parmi les chevaux, et poussa des cris et se frappa les seins, car elle l'avait aimé. Peut-être le dernier mot de sa vie racontait-il par quoi Mackintosh avait passé jadis. Mais, sauf la grosse liasse de vieux cahiers dans le morceau d'étoffe, il n'y avait rien dans sa chambre pour dire qu'il fût ou ce qu'il fût. Les papiers étaient dans un désordre désespérant. Strickland m'aida à les classer et déclara que l'auteur était le plus fief et menteur ou le plus étonnant personnage qui fût. Il penchait pour le premier. Un de ces jours, il se peut que vous soyez à même d'en juger. La liasse demandant à être considérablement expurgée était pleine d'absurdités grecques en tête des chapitres qui ont toutes été retranchées. Si la chose se trouve jamais publiée, il y aura peut-être quelqu'un pour se rappeler cette histoire, imprimée aujourd'hui comme sauvegarde, afin de prouver que c'est Mackintosh Jalaluddin et non pas moi-même qui écrivit le livre de Mère Mathurin, Rudyard Kipling, traduit par Louis Fabulet et Arthur Austin Jackson.